Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast autour d'un nouvel épisode dédié à Réseau à la Une, le podcast qui débriefe le diagnostic des enseignes en franchise. Je suis Valentine Puot, journaliste à l'officiel de la franchise et suis accompagnée dans chaque émission consacrée à ce dossier par Sylvain Bartholomeux, dirigeant et associé du cabinet Franchise Management. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous pour ce décryptage.
Bonjour Valentine, bonjour à tous.
Réseau à la Une.
Réseau à la Une. Le podcast.
Le principe du podcast, certains le connaissent, s'entourer chaque mois du cabinet Franchise Management pour nous aider à passer à la loupe le DIP d'une enseigne dans notre magazine. Après qu'un réseau nous ait confié, et vous ait confié Sylvain, l'ensemble de ses documents juridiques. Ces documents, le cabinet les analyse afin de nous remettre une notation. Et ensuite Sylvain, vous et vos équipes nous transmettez un indice de performance du réseau. Indice qui a été créé pour mesurer en fait le niveau de maîtrise du métier de franchiseur et la clarté au nom des infos qui figurent dans les documents à l'égard des candidats. À chaque fois 50 points de contrôle sur la partie juridique, détaillée dans ce fameux dossier de 6 pages du magazine. Au sommaire, cette fois-ci, le décryptage de l'enseigne d'épicerie fine Comptoir de Mathilde, qui, en juin dernier, comptait encore 133 boutiques sur le réseau. Si le chiffre est toujours exact, vous allez nous le dire dans quelques instants, Philippe Kratt. Et donc, cet échange avec son directeur général adjoint, Philippe Kratt. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous.
Bonjour. Alors le chiffre est presque exact, mais nous sommes aujourd'hui à 144 points de vente et bientôt jusqu'à la fin de l'année, nos 6 derniers points de vente qui feront la barre fatidique des 150 points de vente.
Très bien. Alors on échange tout de suite sur le DIP de l'enseigne et la notation qui lui a été accordée, enseigne que nous avions étudiée dans notre numéro de juin et avec l'été qui s'est écoulé depuis. Sylvain, de votre côté, quels sont les atouts du réseau à souligner et qu'est-ce qui justifie la notation de 63% qui lui a été accordée?
Alors, il y a déjà un atout qui a été évoqué, c'est la taille du réseau quand même, parce qu'un réseau qui atteint le cap des 150 points de vente, il n'y en a pas tant que ça, mais donc il faut quand même le souligner. Au-delà de ça, donc dans le DPR que nous avons réalisé, on regarde le DIP et le contrat, et d'une part la conformité juridique, mais aussi, on va dire, la qualité d'ensemble des documents sur le fond, mais aussi sur la forme, et la cohérence entre la taille du réseau, l'image de la marque et aussi la documentation juridique et surtout le DIP, qui est quand même un point très important puisqu'il est remis préalablement à tout engagement du candidat. Donc sur ces documents que nous avons reçus, la note moyenne qui ressort est de 63%, 67% pour le contrat et 59% pour le DIP.
Alors Philippe, je vais vous proposer de répondre dans quelques instants. Sylvain, on continue. Dans votre analyse, vous avez aussi mentionné un savoir-faire français, un esprit familial au sein du réseau qui reflète la satisfaction des partenaires aussi. Mais parmi les points améliorés, le fait qu'il faudrait éclaircir le DIP qui vous a paru un petit peu minimaliste, mais aussi rééquilibrer le contrat à l'égard des franchisés. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, quand on regarde les documents, encore une fois, on les regarde en se mettant du côté du candidat et du côté du futur franchisé, du candidat à la franchise qui réfléchit à un projet. Et on se dit à un moment donné, est-ce que ces documents-là vont donner envie en fait de poursuivre la relation ? Est-ce qu'ils vont m'aider aussi à moi, candidat en reconversion, qui connaît pas forcément en fait l'entrepreneuriat, parce que dans la plupart des cas, je peux être salarié et donc réfléchir à entreprendre en franchise. Est-ce que ça va me donner en fait les clés pour pouvoir m'engager en connaissance de cause et pour pouvoir me lancer dans ce projet-là ? Et il y a deux angles qu'on regarde, il y a la conformité juridique, et là-dessus, il n'y a pas de gros sujet, si ce n'est des petits points d'amélioration mineure qu'on a soulignés dans les commentaires, mais il y a aussi, on va dire, la lisibilité, la qualité globale des documents. Sur le DIP, moi, il y a un premier point qui nous a marqué, c'est d'un côté un concept qui est quand même très sympa, qui est coloré, on peut dire ça comme ça, avec une vie de franchisé qui a l'air plutôt sympathique, avec des beaux produits, etc., et un document qui est bicolore, c'est-à-dire en noir et blanc. Pas de logo, pas d'image, on ne valorise pas l'histoire de la marque alors qu'on passe bientôt le cap des 150 points de vente et qu'on est à 144 enseignes. Donc, l'historique, la solidité du réseau, l'aventure entrepreneuriale qui a été construite par cette marque année après année mériterait d'être mis en avant parce que, encore une fois, au moment où on remet le DIP, on a fini d'échanger sur une phase plutôt commerciale et de sélection, et à un moment donné, on se pose. Et un candidat se pose avec le DIP et se dit, est-ce que j'y vais pas? Et on sait très bien que le passage du salariat à l'entrepreneuriat, c'est quand même un saut qui est assez conséquent et qui demande à un moment donné un peu de courage, mais aussi un peu de certitude. Et c'est vrai que le document mériterait d'être retravaillé dans ce sens-là pour que le candidat comprenne en fait ce qu'est l'histoire entrepreneuriale de cette marque, ce qu'est l'aventure entrepreneuriale de cette marque, ce que ça engage. Et donc, comment, en fait, grâce à ce document-là, je vais pouvoir étudier mon projet et faire le choix ou non d'aller vers cette marque-là et puis d'entreprendre pendant plusieurs années aux côtés de ce réseau. Donc, ça manque, en fait, c'est relativement austère et ça mériterait, en fait, d'être amélioré en ce sens-là.
Alors Philippe, je vous propose de réagir à l'analyse de Sylvain.
Bien sûr, merci déjà pour toutes ces remarques. Il est vrai que pour moi, le DIP et la manière dont on a voulu le construire n'est qu'une étape. Et c'est-à-dire, je ne voulais pas l'arranger comme un discours commercial et une plaquette commerciale en y ajoutant beaucoup de fioritures. Pourquoi? Parce qu'en fait, le DIP n'est qu'une étape dans le parcours du candidat et que, en règle générale, j'ai déjà croisé le candidat avant la remise de son DIP au moins 3 fois, que ce soit en présentiel ou en visio. Et à ces moments-là, on a échangé sur la nature de l'histoire de l'entreprise, sur le profil personnel du candidat, sur ce qu'il recherche. Et en fait, on est beaucoup plus dans une notion d'échange. Pourquoi? Parce que comme je recherche des commerçants qui vont être dans leur point de vente, j'ai aussi besoin de m'assurer que leur motivation est vraiment réelle. Et donc, je les creuse suffisamment longtemps dans les entretiens préalables. Ce qui fait que le DIP est le moment où j'enlève un petit peu tout le décorum pour que la personne se concentre en fait sur les informations que je lui donne et qu'il me parle plus simplement d'une belle boutique, d'une histoire incroyable, que lui aussi il a envie de faire partie de cette étape. Parce que j'ai envie de dire, ce serait trop facile de l'émerveiller à ce moment-là. En fait, le DIP est pour moi un moment où je teste encore le candidat. Comment réagit-il aux informations que je lui transmets? Va-t-il continuer à chercher des informations sur l'enseigne? Ou au contraire, est-ce qu'il s'attend que je lui donne tout de A à Z et me prouve en fait un manque un peu d'intérêt et de recherche? Donc, j'entends tout à fait cette analyse-là, mais c'est vrai que dans le parcours général, pour moi, le DIP est une étape importante. Et c'est vrai que je la pose, et je la pose pas forcément avec beaucoup de décor, mais au contraire très brute. Alors vous me direz, c'est un style, c'est pas habituel et ainsi de suite, mais ça me permet toujours de tester le candidat. Et puis, à la remise de ce DIP, il y a ensuite toute son histoire, et là, on part dans le sur-mesure. Vous l'avez pu le voir dans notre modèle, 70% de notre développement est en centre commercial, 30% en centre-ville. Et déjà là, j'ai un carrefour. Un carrefour énorme entre un candidat qui dit je pars en centre-ville ou je pars en centre-co. Et mon discours, et même le DIP, va prendre une autre tournure dès lors que le candidat va choisir l'un ou l'autre, parce qu'il y a plein d'adaptabilité, il y a plein de spécificités, de valeurs locatives, de modèles économiques, de charges qui vont varier. Et à ce moment-là, je ne peux pas tout écrire dans le DIP, en tout cas, ce n'est pas ma volonté, c'est qu'ensuite, on rentre dans la partie de personnalisation. Donc c'est vrai qu'il est un peu austère. Il est rude, il est direct, mais alors peut-être qu'on peut l'améliorer sur la partie histoire, bien évidemment, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça important qu'on soit dans de la donnée pour de la donnée à un moment où on est très souvent dans le parcours du franchisé sur de la séduction mutuelle pour que ce dernier ait envie de nous rejoindre, que nous, on a envie de lui plaire, ainsi de suite. Là, il y a un moment, on pose les cartes sur table.
D'accord.
Alors, si je
Allez-y,
peux
Sylvain.
me permettre, en fait, il y a deux points importants. Il ne faut pas mettre des fioritures dans un DIP. Ça, on est tout à fait aligné sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'on sous-estime souvent, c'est le gap entre je suis salarié et je vais devenir entrepreneur. Et en fait, dans le DIP, on peut mettre de la pédagogie, faciliter la lisibilité et expliquer aussi au candidat comment il doit utiliser les informations. Quand je vois un état général de marché et que je ne suis pas, je suis un béotien dans le monde de la franchise, je ne sais pas comment l'utiliser. Et en fait, c'est plus dans cet angle-là, moi, je pense qu'on pourrait aller, parce que j'aime bien votre approche de dire à un moment donné, on a fait quelque part l'aspect commercial, vous avez compris, vous êtes commerçant, mais le métier d'entrepreneur, ce n'est pas qu'un métier joli et sympa, il y a quand même un travail de fond à mener. Mais après, si on garde cet angle-là, que je trouve très judicieux, il faut se dire comment en fait je vais utiliser ce document. Parce que la difficulté quand on est sec et qu'on a des informations qui succèdent, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Et là, je pense que vous pourriez aller dans ce sens-là, et ça pourrait être encore plus pertinent déjà de rappeler le devoir de se renseigner, de poser des questions, de savoir comment j'utilise un état général et un état local, qu'est-ce que je fais de ces informations-là. Et là, vous mettez de la pédagogie, ça peut avoir beaucoup de sens. Et vous gardez votre approche qui est très spécifique et très intéressante, mais vous permettez aussi de simplifier en fait l'accès et l'usage de ces informations. Voilà, si je peux me permettre.
Non, bien sûr, très intéressant.
Alors, autre question, Sylvain, vous avez aussi souligné le fait que la formation initiale proposée par Comptoir de Mathilde vous semblait un petit peu courte à l'égard des nouveaux franchisés. C'est d'ailleurs aussi l'objectif du dossier, d'aider les enseignes à s'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Alors, c'est ce qui est écrit au contrat. Donc, souvent, entre ce qui est écrit au contrat et puis la réalité opérationnelle, il peut y avoir un écart. Mais c'est vrai que quand on lit, en fait, sur le contrat, la durée, de la formation initiale, on se dit par rapport au métier, ça peut paraître un peu court. Peut-être que le plan de formation en lui-même, en réalité, et peut-être que l'accompagnement à l'ouverture, qui succède est beaucoup plus, conséquent. Là, ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un besoin d'actualisation du contrat, parce qu'on peut démarrer en fait avec une matrice contractuelle, puis un seuil minimum, puis finalement au fil du développement, on densifie, mais on ne fait pas machine arrière en se disant tiens, qu'est-ce qu'on avait écrit dans le contrat? Donc peut-être que c'est ce sujet-là.
On est exactement dans ce point-là, puisque on indique une durée minimum, mais pour vous situer, 5 jours déjà rien que chez nous, puis ensuite il passe en manufacture, puis ensuite on passe une semaine en boutique pilote, puis après on continue avec des formations en e-learning et sur le réseau. Et c'est vrai que ce réseau qui a 7 ans aujourd'hui se construit énormément. Là, on vient de construire en fait un lieu dédié à la formation dans le centre-ville d'Avignon pour justement tous nos partenaires et permettre à tous nos partenaires de former leurs vendeurs gratuitement tout au long de l'année. Mais ça, bien évidemment, on l'a pas, bien évidemment, on l'a pas inscrit au contrat parce que la maison grandit vite, parce que on construit nos outils tous les jours. Et c'est vrai que le contrat, lui, répond à la base et derrière, on l'amplifie. Donc, vous avez raison là-dessus. Ça pourrait mériter justement une meilleure mise en avant, puisqu'en fait, ce qu'on parle de là, c'est mieux mettre en avant ce qu'on fait déjà, mais simplement l'écrire au bon endroit.
Et donc, entre-temps, Philippe, cette formation, elle n'a pas été allongée, il n'y a pas eu de modification significative sur votre contrat depuis notre parution.
Non, non, sur la partie du contrat, pas pour le moment. C'est des choses qu'il faut qu'on change aussi. Jeune entreprise, c'est aussi petite équipe. Ça veut dire aussi beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire. Mais ça fait, en gros, comme on n'est pas dans le. C'est-à-dire qu'en gros, nous, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est 150 partenaires bien formés au quotidien, en continu. C'est aussi de là que découle toute leur qualité, leur performance. Donc, en fait, on voit aussi notre travail par rapport au retour qu'on a chaque jour de nos partenaires. Et c'est vrai que comme cette base de contrat est à minima, bah, tout ce qu'on fait en plus, on se dit que pour l'instant, on ne l'a pas encore modifié, mais ça va mériter une relecture générale pour mieux améliorer et mieux mettre en avant ce qu'on fait déjà.
D'accord. Alors Philippe, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Cette émission touche à sa fin. Un point à évoquer sur les prochains projets de l'enseigne ou sur le processus de recrutement des candidats, par exemple, ou encore sur la façon dont vous allez peut-être accompagner aussi les candidats sur la préparation de Noël, ou encore sur les ouvertures de franchises à venir. Vous avez cité des ouvertures pour la fin de l'année. Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous indiquer où est-ce qu'on va avoir des comptoirs de Mathilde prochainement? Surtout sur un marché qui est porteur, hein, pour vous citer quelques chiffres, en 2022 encore, ce marché donc de l'épicerie fine aussi était estimé entre 7 et 9 milliards d'euros selon Xerfi. Donc on voit bien aussi l'importance que peut avoir ce secteur pour des futurs candidats potentiellement intéressés par votre concept. Donc voilà, concrètement, quels sont des actualités, pour n'en citer que trois, qui vont arriver sur le réseau prochainement?
Alors, dans les prochaines périodes, on va ouvrir notre boutique d'Orange, on va ouvrir Saran à côté d'Orléans, on va aussi ouvrir Mulhouse, les Ulysses en région parisienne, Caen-Mondeville en centre commercial, Rennes-Cesson en centre commercial, et on terminera l'année. Puis ensuite, on a déjà une quinzaine d'ouvertures de prévues en 2024, centre-co et centre-ville. Pour continuer à accompagner nos partenaires aujourd'hui, et quand on voit aujourd'hui aussi le marché du retail, hein, qui est vis-à-vis de la baisse du pouvoir d'achat aussi compliqué, puisqu'il faut se battre tous les jours, on est en train de monter en compétence sur toute la partie approvisionnement, permettre à nos partenaires d'avoir le juste stock en boutique et donc d'avoir des systèmes de réapprovisionnement semi-automatique par rapport à leur vente et à leurs besoins de marchandises. Ça va permettre d'avoir des... qu'on accompagne en fait nos partenaires dans leur gestion. Et puis, c'est bien évidemment sans arrêt la formation, on en a parlé. Améliorer également toute la partie logistique de l'entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de répondre beaucoup plus rapidement aux besoins de nos partenaires. Donc, on est en train de sélectionner un deuxième site logistique pour gagner du temps en termes de temps de transport. L'objectif, on le sait, cette année et dans les années à venir, c'est de faire en sorte de supprimer pour nous et comme nos partenaires tous les petits coûts que nous avons au quotidien, car on va avoir besoin en fait d'être le plus performant possible pour rester compétitif et avoir toujours un prix de vente conseillé très accessible pour les consommateurs finaux qu'on cible. Donc, on a ces projets communs pour avancer là-dessus.
Surtout pour la pâte à tartiner qui plaît toujours aux plus petits et aux plus grands.
Exactement.
Ben merci en tout cas à tous les deux pour ce moment d'échange et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec une autre enseigne d'un autre secteur. En attendant, tous nos podcasts sont à retrouver sur la plateforme CDI Podcast et toutes les plateformes de streaming. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.